Vous écoutez, on lit pour vous.
Le plafond de traitement de demande de parrainage, un stress pour beaucoup de familles. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 31 juillet 2024 dans Le Devoir. Un mois après l'annonce du plafond de traitement des demandes de regroupement familial par le gouvernement Legault, des familles se désolent du stress supplémentaire que cette décision ajoute à une démarche déjà longue et difficile, selon des témoignages récoltés par Le Devoir. « On se sent abandonné », raconte Nancy Bolduc, enceinte de 5 mois. Son conjoint, Ibrahim, vit au Maroc et tente d'immigrer au Canada. En avril 2024, le couple a soumis sa demande à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Pour entamer le processus d'immigration dans les cas de regroupement familial, la personne qui est au Canada, appelée le « parrain », doit déposer une demande auprès de l'IRCC. Si cette demande est acceptée, le parrain peut ensuite commencer le processus de demande d'engagement auprès du ministère québécois de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI. Si la demande d'engagement est acceptée, le MIFI remet un certificat de sélection du Québec, CSQ, à la personne qui désire être parrainée. Le document est finalement renvoyé au fédéral, qui accepte ou non la demande de résidence permanente selon les seuils établis par le Québec. En 2022 et 2023, le gouvernement québécois a délivré 30 000 CSQ. En juin 2024, Québec a établi qu'un maximum de 13 000 demandes d'engagement seraient traitées entre le 26 juin 2024 et le 25 juin 2026. La décision du gouvernement québécois a été prise afin de diminuer la disparité entre le nombre de CSQ remis et le seuil maximal de 10 600 personnes par année qui peuvent obtenir leur résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial au Québec. Cette décision s'inscrit dans la volonté de la ministre de faire respecter les cibles d'admission planifiées dans le regroupement familial, avait répondu au Devoir en juin 2024 le cabinet de la ministre Christine Fréchette. C'est déjà long, se désole Nancy Bolduc. Elle anticipe les prochaines étapes et s'inquiète parce que si son dossier est déposé après que le plafond de 13 000 demandes a été atteint, sa démarche tombera à l'eau. Chaque jour d'attente est un jour de moins avec mon conjoint. Le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, avait fait comprendre au printemps qu'il pourrait faire fi du seuil de 10 600 demandes pour approuver toutes celles qui avaient obtenu un CSQ et qui étaient en attente au fédéral à cause du seuil québécois. La diminution du nombre de CSQ délivrés réduirait donc le nombre de demandes en attente au fédéral. L'imposition de ce plafond pour les demandes traitées n'est pas bien accueillie de tous. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, le député libéral Andrea Morin, considère que la solution proposée, c'est trop peu, trop tard. Ce que je disais à la ministre Christine Fréchette, c'est « Regardez vos dossiers que vous avez en attente, accordez-leur une priorité et réglez d'abord ces dossiers-là. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. » Il suggère de passer outre les cibles établies par le Québec dans son plan d'immigration et de traiter en priorité les dossiers de regroupement familial en attente dans les 24 prochains mois, quitte à offrir plus que 10 600 résidences permanentes par année, pour 2 ans. En octobre 2023, le MIFI a indiqué que le nombre de personnes en attente d'être admises au Québec s'élevait à 38 400. Pour Andrea Morin, il ne sera pas possible de traiter autant de demandes avec les cibles actuelles. Baissez votre liste d'attente, traitez ça en priorité, demande-t-il. Au-delà des chiffres, il y a des familles qui attendent d'être réunies. Depuis l'annonce, j'ai reçu à mon bureau de circonscription des dizaines et des dizaines de lettres de citoyens qui sont choqués et attristés. Ça a des impacts dévastateurs sur leur vie. Une course contre la montre. On attend d'avoir officiellement le statut de conjoint de fait pour déposer un parrainage, mais plus on attend, moins nos chances sont bonnes, raconte Kim Champoux, un Québécois dont la conjointe est mexicaine. Au Québec, il faut 12 mois de vie commune avant d'être légalement considéré comme conjoint de fait. Le couple obtiendra ce titre en août 2024. C'est une course contre la montre pour les partenaires qui espèrent que le seuil de 13 000 demandes ne sera pas atteint avant que leur dossier puisse être traité. Même s'il a des adolescentes nées d'une première union, Kim Champoux dit qu'il doit considérer l'idée de partir. Les délais d'attente pour les demandes faites au Québec, qui s'élèvent présentement à 36 mois pour les demandeurs de l'international, combinés à l'incertitude à cause de la nouvelle législation, les poussent, lui et sa conjointe, Anna Moreno, à considérer l'idée de changer de province. En Ontario, ça prendrait 12 mois à partir du dépôt de la demande, dit-il. Les situations vécues par Nancy Bolduc et Kim Champoux sont très différentes, mais elles se rejoignent sur un point important. Les deux nous ont affirmé que l'annonce de juin avait ajouté un poids sur leurs épaules dans une situation déjà difficile. « J'ai juste hâte que ce soit réglé », a conclu M. Champoux. C'était... Le plafond de traitement de demande de parrainage, un stress pour beaucoup de familles, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 31 juillet 2024 dans Le Devoir.
Une histoire folle depuis 70 ans. Un texte de Samuel Larochelle paru le 16 juillet 2024 dans La Presse. Connaissez-vous le Hollandais volant? Le crocodile du Nil? La loutre de Pequakami? Et la torpille américaine? Ce sont les surnoms donnés à certains des marathoniens en eau libre qui ont marqué la traversée du lac Saint-Jean. Leurs exploits sont relatés par la plume fougueuse de Jean-Pierre Girard dans le nouveau livre « Les folles histoires de la traversée du lac Saint-Jean ». Puisque la résidence familiale des Girard se trouvait sur les rives du lac Saint-Jean, il a pu observer dès un très jeune âge les nageurs, les embarcations et la foule en délire. Les gens de Roberval ont eu un coup de foudre pour la traversée, dit le journaliste. Pourtant, la population riveraine avait peur de l'eau ou ne savait pas nager dans les années 1950. Martin Bédard rêvait de les inspirer en trouvant un nageur qui oserait traverser le lac. Quand Jacques Amyot a réussi, le 23 juillet 1955, en 11h32 minutes, c'était inimaginable pour les gens. Cet acte de bravoure a fait connaître Roberval. Tout d'un coup, on s'est mis à exister, raconte Jean-Pierre Girard. Toute la population a embarqué là-dedans. Chaque année, on organise un souper au centre-ville avec de la tourtière et de la tarte aux bleuets. Il y a un esprit communautaire qui marche fort. L'événement appartient aux gens. Lui-même en parle comme s'il décrivait les exploits de sa progéniture. Il affirme d'ailleurs que la traversée lui a fait vivre ses sensations les plus fortes en carrière. J'ai toujours rêvé d'être journaliste sportif, de parcourir le monde et de couvrir les Jeux olympiques. Ce n'est pas arrivé, mais je vivais la traversée à côté de chez nous. Il avoue avoir souvent perdu sa contenance d'animateur. Même si j'avais interviewé des vedettes et des premiers ministres ou animé des débats, dans le reste de ma carrière, j'étais très impressionné par les nageurs en studio. Je les regardais comme si j'avais 8 ans. Pour moi, ce sont des demi-dieux. Un marathon exigeant et inquiétant. Ces athlètes surhumains affrontent un lac qui ne se laisse pas dompter facilement lors du marathon qui a lieu le dernier samedi de juillet, peu importe les conditions. Quand on arrive sur le quai, on voit les nageurs regarder au large avec des yeux inquiets. Ils doivent affronter le vent, les vagues immenses, l'immensité du lac qui laisse sans repère. Mais le plus gros problème, c'est l'eau froide et l'hypothermie. On a sauvé plusieurs nageurs de la noyade en 70 ans. L'exigence physique de la traversée de 32 kilomètres est gigantesque. Mais les techniques d'entraînement pour s'y préparer se sont affinées. Lors de la première traversée avec 6 nageurs, ils pouvaient manger un steak le matin avant de partir, évoque Jean-Pierre Girard. Durant les 20 premières années de la traversée, les gagnants nageaient entre 8 et 9 heures pour terminer la course. Certains prenaient jusqu'à 14 heures, avant qu'on mette la limite à 12 heures. Tout a changé avec le nageur olympique John Kinsella, alias la torpille américaine. Quelques heures après son départ en matinée, je suis allée chez moi. On a entendu l'animateur radio inviter les gens à s'en venir au quai parce que Kinsella approchait. On se disait, ça se peut pas, on est en train de dîner. Ensuite, les organisateurs ont été obligés de retarder le départ du marathon parce qu'il arrivait trop vite. N'allez pas croire que les Québécois sont en reste. Les amateurs de nage en eau libre vous parleront de Robert Cossette, qui a traversé le lac à 74 ans, de sa fille Christine, qui a réussi le premier aller-retour de 64 kilomètres, et d'autres célèbres vainqueurs. Xavier Desharnais, Annie Grandisson, Régent Lacourcière, Alexandre Leduc, Robert Lachance, Christine Cossette. On a été béni d'avoir 6 Québécois qui ont remporté la traversée. Pendant 40 ans de la traversée du lac Memphrémagog, jamais un Québécois n'a gagné, rappelle Jean-Pierre Girard. Il se souvient aussi bien de la victoire inattendue de Robert Lachance en 1982 que de celle de Xavier Desharnais il y a 10 ans. Lorsque les gens voyaient Xavier arriver, en premier en 2014 et en 2015, ils étaient tellement contents. Des vedettes au rendez-vous. L'événement a profité de la présence de vedettes hollywoodiennes, de premiers ministres, de joueurs de la LNH et de plusieurs nageurs mémorables. Mais c'est la course elle-même qui fait courir les foules. Quand tu es sur le quai, les gradins sont remplis de milliers de personnes. Il y a une ambiance extraordinaire. À l'arrivée des meneurs, il y a une explosion de joie. Les gens aiment ça et ils sont des connaisseurs. Même si Jean-Pierre Girard décrit pendant environ 260 pages les histoires les plus vibrantes de la traversée, il conclut néanmoins avec une note d'inquiétude en évoquant la désaffiliation de la compétition de la FINA. « Je suis de nature inquiète. Le Québec a déjà été une pépinière de marathon de nage. Les 24 heures de la TUC ont duré 20 ans. La traversée du lac Memphrémagog, 40 ans. Le marathon du Saguenay pendant des années. Montréal a eu des marathons de nage en eau libre. Malheureusement, tous ces événements ont disparu. » Une pointe d'espoir en terminant. Mon ami Pierre Lavoie pense qu'il faudrait ajouter un volet populaire en invitant tous les clubs de natation du Québec à faire la traversée, en conservant le volet compétitif. Selon lui, ça attirerait plus de gens encore. À mes yeux, ce serait difficile d'assurer la sécurité de 200 nageurs avec de telles conditions. Mais on sait ce qu'il est capable d'organiser. C'était une histoire folle depuis 70 ans. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 16 juillet 2024 dans La Presse.
Les entrepreneurs paient la note d'une réservation sur 5. Un texte de Benjamin Rousse et Véronique Tremblay, paru le 18 juillet 2024 dans La Presse. Benjamin Rousse est analyste des politiques à la FCEI. Véronique Tremblay est présidente directrice générale de l'AHQ et de l'AQS. Ah, l'été québécois. La saison où chaque journée est une invitation à l'aventure, où les festivals, les plages et les soirées entre amis promettent des souvenirs inoubliables. On le sait bien, l'été file à toute allure et on ne veut rien manquer de ces délices éphémères. Imaginez Marie et ses trois amis qui planifient une soirée gourmande. Trattoria italienne, restaurant japonais ou brasserie québécoise? Le choix est difficile. Elles réservent donc une table dans les trois établissements. Elles choisiront, au gré de leurs envies du moment, le soir même. Pendant ce temps, James, qui rêve d'une escapade détente, envisage un massage au spa le samedi. Mais si le soleil brille de mille feux, direction la plage. Alors pourquoi ne pas réserver une séance de détente au spa, juste au cas où le ciel se voilerait? Cette liberté de choisir à la dernière minute, c'est une bouffée d'air frais dans notre quotidien bien rempli. Cependant, chaque fois qu'un client ne se présente pas à sa réservation sans avertissement, c'est une réalité moins festive qui se dessine pour les entrepreneurs qui s'étaient préparés à l'accueillir. Sachant que le phénomène des no-shows représente environ 20% des réservations dans les restaurants et qu'il constitue une tendance croissante dans les spas, il n'est guère étonnant que plus de la moitié des PME appuient l'idée d'autoriser les bars et les restaurants à demander un acompte pour les réservations. Lorsque Marie et ses amis optent pour la trattoria italienne, c'est le restaurant japonais et la brasserie qui restent sur leur faim, leur table réservée restant désespérément vide. Ce n'est pas grave, d'autres clients prendront nos places, se dit-on. Mais la triste réalité, c'est que ces restaurateurs sont laissés dans l'expectative. Quant à James, l'idée du massage au spa se dissipe aussitôt qu'il découvre un soleil éclatant le samedi matin. Gougoune aux pieds et crème solaire en poche, il s'en va à la plage. Pendant ce temps, le spa attend en vain, ayant réservé une massothérapeute spécialement pour lui. C'est une douche froide pour l'entrepreneur qui doit assumer les frais sans obtenir le paiement du client. Dans un contexte post-pandémique où chaque dollar compte dans la survie des entreprises, une réservation non honorée peut faire la différence entre être rentable ou non pour une PME. Une loi à modifier. Le véritable problème réside dans la loi sur la protection du consommateur, LPC, qui empêche notamment les restaurateurs de demander un montant fixé à l'avance, soit des frais d'annulation, dans les cas où les clients ne se présentent pas. Cette restriction leur enlève la possibilité de compenser en partie les pertes causées par les no-shows, mais surtout, elle les empêche de créer une incitation qui motiverait les clients à honorer leur engagement. Quant aux propriétaires de spa, eux, ils maintiennent le droit d'appliquer leur politique d'annulation puisque les frais facturés correspondent aux coûts et pertes réellement subis lors d'un no-show. Exiger un acompte non remboursable ne suffit pas à compenser les pertes liées à une table vide ou à un service de massothérapeute réservé pour rien. C'est avant tout une manière de sensibiliser les clients aux conséquences de leurs actions afin de limiter les réservations fantômes et de laisser la place à ceux qui auraient pu profiter des services offerts. La LPC crée actuellement un déséquilibre inutile en ce qui concerne les réservations dans certains établissements. Autoriser la prise d'un acompte permettrait de rétablir l'équilibre sans pour autant offenser les clients respectueux qui honorent leurs engagements ou annulent à l'avance leurs réservations. Après tout, cette pratique devrait être perçue comme une norme de courtoisie et de respect mutuel, et non comme une exception. C'était « Les entrepreneurs paient la note d'une réservation sur cinq », un texte de Benjamin Rousse et Véronique Tremblay, paru le 18 juillet 2024, dans la presse.
Geneviève Aimebois, « Offrir les saveurs du monde ». Un texte de Guillaume Roy, paru le 12 mars 2024 dans le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Native d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, Geneviève Aimebois a choisi de s'installer à Saint-Félicien en 2013. Deux ans plus tard, elle ouvrait une épicerie spécialisée dans les produits d'importation pour répondre aux besoins culinaires des immigrants. Récemment, elle a lancé une deuxième épicerie du genre à Alma. Rencontre avec une entrepreneure ivoirienne qui voit grand. Quand on est immigrant, ça fait vraiment du bien de trouver de la nourriture de chez nous, remarque d'emblée Geneviève Aimebois, qui a immigré de la Côte d'Ivoire le 15 novembre 2013. Faute de trouver les produits auxquels elle était habituée, elle a décidé de lancer sa propre épicerie spécialisée. Travaillant dans un cabinet d'expertise maritime à Abidjan, rien ne destinait Geneviève Aimebois à ce projet. Et c'est son désir d'une vie plus tranquille qui l'a menée au lac Saint-Jean. Au départ, j'avais choisi Alma, mais Portes ouvertes sur le lac m'a proposé Saint-Félicien. Alors je suis venue ici, dit-elle avec un large sourire. Aller vivre dans un autre pays et créer son entreprise font partie de son destin. J'ai toujours voulu avoir une entreprise, alors quand je suis arrivé, j'ai regardé ce que je recherchais et qui manquait, note-t-elle. Le parcours n'a pas toujours été simple, car elle a dû faire un cours de lancement d'entreprise, démontrer la demande et trouver du financement pour monter son projet d'affaires. L'entreprise a donc démarré tranquillement en décembre 2015, alors que l'ouverture officielle a eu lieu le 12 février 2016. Des produits pour toutes les origines. J'ai lancé une épicerie en offrant des produits spécialisés d'un peu partout, et j'adapte constamment mon offre en fonction des besoins de la clientèle, note Geneviève Aimebois. Au départ, c'était plus difficile parce qu'il y avait moins d'immigrants, mais il y en a de plus en plus. Pour la clientèle africaine, on retrouve par exemple différents types de poissons entiers, comme le tilapia, le poisson-chat ou le maquereau, car c'est ainsi qu'ils sont cuisinés en Afrique. Il y a aussi l'atiéké, un genre de couscous fait avec du manioc ainsi que du manioc frais, qui est en fait un légume racine africain utilisé un peu comme la pomme de terre au Québec. Contrairement aux petits formats offerts en épicerie, le marché d'ici et d'ailleurs offre de gros formats de riz, de farine et d'autres denrées, tels que désire la clientèle immigrante. Avec une forte population de Guatémaltèques, l'entrepreneur offre aussi plusieurs produits qu'ils apprécient, comme plusieurs types de fèves, des sauces, des produits épicés, des desserts ou de la couenne de porc frit. Plus récemment, une petite population en provenance d'Algérie et du Maroc s'est installée dans le nord du lac Saint-Jean et de nouveaux produits sont apparus sur les tablettes pour satisfaire les besoins de cette nouvelle clientèle, tels que des couscous et semoules ou des produits de pâtisserie à base d'amandes et de pistaches, halva. Ça fait plaisir aux gens quand ils trouvent de la nourriture de chez eux, dit-elle. On a tous des habitudes alimentaires différentes et c'est réconfortant de sentir le parfum de plats de son pays. Pour trouver tous ces produits, elle fait affaire avec différents fournisseurs de Montréal. Un échange culinaire. En plus de répondre aux besoins de la clientèle immigrante, cette épicerie est aussi un lieu d'échange avec la culture québécoise. C'est une façon pour moi de partager ma culture culinaire, dit-elle. Et pour faciliter cet échange culinaire, elle a développé des produits prêts à manger au cours des dernières années, maintenant disponibles en format surgelé sous la marque Goûter l'Afrique. On peut donc facilement goûter au riz africain bœuf et légumes, riz gras, au poulet aux oignons et olives vertes et riz, poulet yassa, au poulet plantain et légumes, poulet DG, et au couscous de manioc au poulet et bananes plantaires frites, Atiéké Poulet Aloko. En plus de les retrouver dans son épicerie, on les trouve aussi dans les épiceries de Saint-Félicien et à quelques endroits à Chicoutimi, dont au IGA, au métro et chez Biz Coop. En plus du service d'épicerie, Geneviève Mbois offre aussi le service de transfert d'argent RIA, prisé par la clientèle pour envoyer de l'argent à leurs proches. Une deuxième épicerie à Alma. Un deuxième marché d'ici et d'ailleurs a vu le jour, cette fois-ci à Alma, au 320 avenue Champagnat. Des dégustations, des promotions et une ambiance festive étaient à l'honneur lors de l'ouverture. J'ai toujours desservi le marché d'Alma en offrant des livraisons porte-à-porte au début et depuis quelques années, je travaille avec l'épicerie communautaire La Maisonnée, explique Geneviève Mbois. La demande augmente constamment et ils n'ont plus assez d'espace, alors j'ai décidé d'ouvrir un deuxième marché. Même si elle est connue des clients, l'entrepreneur admet avoir vécu un stress à l'approche de l'ouverture. C'est un autre niveau de challenge et de pression, et je devais trouver un employé à temps plein, dit-elle. Un parcours impressionnant. 10 ans après son arrivée au lac Saint-Jean, Geneviève Mbois est bien implantée dans son milieu et elle est heureuse de voir que ses 3 fils se sont bien intégrés en poursuivant leurs études, notamment en informatique et en comptabilité. Je regarde plus les nouveaux projets que ce que j'ai déjà fait, mais en regardant en arrière, je réalise que j'ai réussi à résister à plusieurs défis et je dis merci à Dieu, dit-elle. Parmi les défis importants, elle note la difficulté à obtenir le financement, faute d'avoir un dossier de crédit, pour lancer son entreprise. Avec peu de personnes noires dans la région, elle se sentait parfois observée, sans méchanceté, mais créant tout de même un certain malaise. Sa plus grande fierté est d'avoir lancé une gamme de produits prêts-à-manger africains. Je suis pratiquement la seule à offrir des prêts-à-manger à saveur africaine au Québec. Je l'ai fait. Et je l'ai fait à Saint-Félicien, remarque-t-elle. Avec plus de moyens, elle aimerait pousser ses produits encore plus pour conquérir le marché québécois et même plus encore. J'aimerais avoir des vendeurs sur le terrain et une équipe de communication, mais j'avance comme je le peux, conclut la femme, qui souhaiterait aussi lancer d'autres épiceries ailleurs, au Québec. C'était Geneviève Mbois, Offrir les saveurs du monde, un texte de Guillaume Roy paru le 12 mars 2024 dans le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean.